Grand un phénomène électrique en rapport avec l'influx nerveux. Les propriétés des tissus nerveux, suite. La conduction de l'influx nerveux le long du nerf peut être appréciée à l'aide d'un oscilloscope cathodique. Un principe de fonctionnement de l'oscilloscope cathodique, il est constitué d'un tube cathodique à fond fluorescent. Le filament de la cathode, chauffé par du courant électrique, produit un faisceau d'électrons qui est attiré par l'anode. Les électrons traversent l'anode et vont bombarder l'écran fluorescent, le rendant lumineux au point de contact, c'est le spot. Avant son arrivée sur l'écran, le faisceau passe entre deux systèmes de plaques métalliques. Les deux plaques disposées verticalement sont reliées à un condensateur qui se charge et se décharge alternativement. Ces plaques sont à l'origine du balayage horizontal du faisceau. Les plaques horizontales situées après sont reliées aux électrodes réceptrices R1 et R2. La plaque inférieure est reliée à l'électrode réceptrice R1, alors que la plaque supérieure est reliée à l'électrode réceptrice R2. La déviation du spot par les plaques est due à la modification de charge électrique de la fibre nerveuse. L'oscilloscope est relié à un stimulateur permettant de contrôler l'amplitude AS, intensité du courant, la durée TS et la fréquence FS de stimulation. Le stimulateur est relié à la fibre nerveuse par des électrodes stimulatrices S1 et S2. L'oscilloscope est également relié à un amplificateur qui est à son tour relié à la fibre par des électrodes réceptrices R1, R2. Deux mises en évidence des phénomènes électriques. 2-1, enregistrement de phénomènes électriques. 2-2. Potentiel de repos, relions deux électrodes réceptrices à un voltmètre et plaçons l'une à la surface de la fibre nerveuse, l'autre enfoncée à l'intérieur. On constate une déviation de l'aiguille à ⁇ ce qui veut dire que l'intérieur est chargé négativement et l'extérieur positivement. Il y a donc une différence de potentiel, DDP, c'est le potentiel de repos ou potentiel membranaire, varie entre 30 mmHg et 70 mmHg chez les cellules excitables. Lorsque les deux électrodes sont placées à la surface de la fibre nerveuse, on ne note pas de DDP, donc tous les points de la membrane sont au même potentiel, c'est l'équipotentialité. Il en est de même lorsque les deux électrodes sont placées à l'intérieur de la fibre. Le voltmètre et le galvanomètre permettent de détecter la DDP, mais l'oscilloscope donne de meilleures informations car permet de visualiser sur l'écran fluorescent les potentiels de repos et d'action. 2-3. Potentiel d'action. 2-3-1. Potentiel diphasique sur un dispositif d'enregistrement contenant une fibre de grenouille. Envoyons une excitation supraliminaire. On voit une double déviation du spot qui décrit une courbe à double déviation inverse. C'est le potentiel d'action. Il est précédé d'un enregistrement appelé artefact, synchrone de la stimulation et du passage du courant dans la fibre. Analyse des phénomènes électriques du potentiel diphasique. Ce potentiel d'action ou onde diphasique comporte en 1, un artefact de stimulation, instant où on porte la stimulation, de 1 à 2, le temps de latence, temps mis par l'influx nerveux pour parcourir la distance E à R, de 2 à 3, dépolarisation au niveau de l'électrode réceptrice R1, de 3 à 4, repolarisation de 4 à 5, dépolarisation au niveau de l'électrode réceptrice R2 de 5 à 6, repolarisation. Au-delà de 6, rétablissement de l'état de repos. 2-3-2, potentiel monophasique. Lorsque l'électrode R1 est sur le nerf et l'électrode R2 à l'intérieur du nerf ou à un potentiel fixe, électrode de référence, on enregistre une courbe à un seul sommet, le potentiel monophasique. Analyse des phénomènes électriques du potentiel monophasique en 1, un artefact de stimulation de 1 à 2, le temps de latence, temps mis par l'influx nerveux pour parcourir la distance EE1R, de 2 à 3, dépolarisation au niveau de l'électrode réceptrice R1, de 3 à 4, repolarisation, hyperpolarisation au-delà de 4, rétablissement de l'état de repos. 2-3-3, phénomène de sommation. Lorsqu'on excite une fibre avec une stimulation infraliminaire, on n'obtient pas de potentiel d'action, mais il se produit une réponse locale, potentiel local, qui ne se propage pas et modifie l'état d'excitabilité de la fibre pendant un temps bref. Cependant, la succession de stimuli infraliminaires à intervalles de temps courts provoque un potentiel d'action, car les potentiels locaux s'additionnent pour atteindre le seuil d'excitation, qui est d'environ de 50 cm². C'est le phénomène de sommation. 2-4 interprétations ioniques du potentiel de repos et d'action. 2-4-1, le potentiel de repos données expérimentales, des études pratiques sur des fibres nerveuses géantes de Kalmar, montre la répartition ionique de part et d'autre de la membrane de l'axone. Nous constatons que les ions Na+ sont peu abondants dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire, alors que les ions K+ sont plus abondants dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire. Le potentiel de repos ou de membre est lié à cette différence de concentration de particules chargées électriquement. L'importance de la répartition des ions K+ est fondamentale. Rôle des protéines membranaires. Les ions K+, étant plus concentrés dans le milieu intracellulaire, vont diffuser de l'intérieur vers l'extérieur, alors que les ions Na+ vont diffuser de l'extérieur vers l'intérieur, car plus concentrés dans le milieu extracellulaire. Cette diffusion se fait à travers des protéines canaux, les « canaux de fuite », ouverts en permanence, et laissant passer les ions K+ et Na+, mais sont plus perméables aux ions K+, d'où la perméabilité sélective de la membrane. On peut la diffusion de ces ions aboutira, après un certain temps, à un équilibre de concentration de part et d'autre de la membrane, ce qui n'est pas le cas physiologiquement, car il existe une pompe à Na+, BI+, ATPase, qui est une protéine qui déplace les ions contre leur gradient de concentration et maintient le potentiel de repos, mais avec une consommation d'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP. 2-4-2, le potentiel d'action lors de la stimulation de la fibre nerveuse, il est possible de suivre les variations de perméabilité en ions Na+ et de K+. D'abord, il y a une forte perméabilité en ions Na+, qui entre dans l'axone par ouverture des canaux Na+, voltage dépendant. Ces canaux ne s'ouvrent qu'à partir d'un seuil d'intensité, d'où leur nom de canaux voltage dépendant différent des canaux à Na+ et K+, ce qui se matérialise par une baisse de charge positive sur la surface de la membrane. La partie externe de la membrane devient électronégative par rapport à l'intérieur, c'est la dépolarisation. Ensuite, les canaux Na+ voltage dépendants sont inactivés et se ferment. Au même moment, les canaux K+ voltage dépendants s'ouvrent entraînant une importante sortie de K+, rendant l'extérieur électropositif à nouveau, c'est la repolarisation. Le hyperpolarisation est dû à une sortie un peu plus importante de K+, lors de la repolarisation. Enfin, le passage des ions de part et d'autre de la membrane entraîne une répartition anormale, excès de Na+ interne et déficit de K+ interne. Pour réparer ce déséquilibre en quelques millisecondes, la pompe à Na+ BI5K+ augmente son activité, ce qui correspond à la période réfractaire. Remarque, tout blocage de la synthèse de ATP entraîne un arrêt de la pompe à Na+ Kyalthus. 3. Potentiel d'action d'une fibre nerveuse ou d'un nerf portant des excitations d'intensité de plus en plus croissantes sur une fibre nerveuse. Pour des intensités infraliminaires, il n'y a pas de réponse. Lorsqu'une certaine valeur est atteinte, on obtient un potentiel d'action dont l'amplitude ne varie pas quelle que soit l'augmentation de l'intensité. La réponse obtenue est maximale. La fibre isolée obéit à la loi du tout ou rien. La répétition de la même expérience sur un nerf ne provoque pas de réponse pour les faibles intensités. Mais lorsqu'on atteint une intensité suffisante, on enregistre des potentiels d'action dont l'amplitude est d'autant plus élevée que l'intensité est forte. Aux intensités très élevées, l'amplitude des potentiels d'action ne varie plus. Ce phénomène est dû au fait que le nombre de fibres excitées augmente avec l'intensité du courant. En effet, une intensité plus forte permet de stimuler les fibres à seuil plus élevé, ainsi que les fibres qui ne sont pas en contact direct avec les électrodes stimulatrices. Et quand toutes les fibres sont excitées, phénomène de saturation, l'amplitude du potentiel d'action cesse de croître. Le nerf n'obéit pas à la loi du tout ou rien, mais au phénomène de recrutement.